Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Baba Batra, page 128, Daf Kuf Kaf Het. Bonne écoute et bon limoud.
Ou bien Atan et Atoli de Matana, ou bien tu me l'as fait cadeau. En fait, dans ce cas, c'est l'accusé qui a gain de cause, parce qu'il s'agit ici d'un cas où il peut prétendre au droit de propriété, comme nous l'avons vu au début du troisième pérec, par exemple au bout de 3 ans, ou bien s'il s'agit d'un petit qui se trouve dans un berceau, même immédiatement, il pourra prétendre au droit de propriété. Cependant, si l'accusé ajoute la phrase suivante, « Retsoncha hishava betol », si tu veux, prête un serment comme quoi cet esclave t'appartient, et prends-le, bien qu'en fait, dans ce cas, il n'y a pas lieu de prêter serment. Parce que d'une part, comme il est enseigné dans Shvuot, Daf Membet Amudbet, il n'y a pas de serment à prêter sur un esclave, parce que les esclaves sont considérés comme des terrains immobiliers. Et d'autre part, même s'il y avait lieu de prêter serment, c'est toujours l'accusé qui prête serment pour être exempté de payer. Mais la Torah n'a jamais imposé de serment pour permettre de réclamer un objet ou de l'argent. Quand même, l'accusé lui a accordé ce droit de prêter serment pour récupérer l'esclave. Venishba, puis le revendicateur a prêté un serment comme quoi cet esclave lui appartenait. Maintenant, lorsqu'il vient réclamer, Eno Yachol Arzorbo, l'accusé ne peut plus changer d'avis sous prétexte qu'il n'y a pas eu d'acte d'acquisition. Parce que nous considérons cette situation comme si l'accusé avait avoué que cet esclave appartenait au revendicateur s'il prêtait un serment. C'est pour cela donc qu'une fois qu'il a prêté serment, l'accusé ne pourra plus changer d'avis. Alors la Gemara demande, Maïka Mashmalam, qu'est-ce que Rabbi Abba vient nous enseigner? Quel est son chidouche Tanina? Cela a été enseigné clairement dans une Mishnah dans Sanhedrin Daf Kaf Dalet. En effet, la Mishnah nous dit, Amarlo, si une personne dit à son prochain avec lequel il se disputait, Neeman Alayaba, j'accepte le jugement de mon père, Neeman alayavicha, j'accepte le jugement de ton père, alors qu'un membre d'une famille ne peut pas être juge dans une affaire concernant un des membres de sa famille, ou bien s'il lui dit Neemanin alay shlosha roei bakar, j'accepte sur moi le jugement de 3 bouviers qui n'y connaissent rien en matière juridique, Rabbi Meir Omer yachol arzorbo, Rabbi Meir dit qu'il peut changer d'avis sous prétexte qu'il n'y a pas eu d'acte d'acquisition. Donc même après que le jugement a été rendu, il pourra changer d'avis. Il ne peut pas se rétracter une fois que le jugement a été rendu. Nous voyons donc clairement, selon l'opinion de Chachamim, qu'une personne qui accepte n'importe quel jugement ne peut plus changer d'avis. Nous pouvons donc déduire d'ici qu'une personne qui accepte de restituer l'esclave, si le revendicateur jure qu'il lui appartient, il ne devrait pas pouvoir changer d'avis. Donc finalement, quel est le chidouche de Rabbi Abba? L'agma répond, Hakamash Malan, c'est cela le chidouche que Rabbi Abba a voulu nous enseigner, de Be'eten Lecha Machloket, que cette discussion entre Rabbi Meir et Chachamim porte sur le cas où une personne dit à son prochain, je te donnerai telle somme d'argent ou tel objet en question, si les juges en question jugent contre moi. Alors qu'il existe une interprétation selon laquelle la discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim porte uniquement sur le cas où une personne dit à son prochain, je suis prêt à renoncer à telle dette si les juges en question jugent contre moi. Et c'est donc uniquement dans ce cas que les Chachamim ont dit que la personne en question ne peut plus changer d'avis, parce que pour le renoncement d'une dette, l'acte d'acquisition n'est pas nécessaire. Mais dans le cas où il lui dit, je te donnerai une somme d'argent si les juges en question jugent contre moi, dans ce cas, même les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Meir que la personne en question peut changer d'avis. C'est pour cela donc que Rabbi Abba nous enseigne que les Chachamim maintiennent leur opinion, même dans le cas où il lui dit « Je te donnerai telle somme d'argent ou tel objet si les juges en question jugent contre moi. » Et aussi que l'Halakha est comme les Chachamim. Et c'est pour cela donc qu'une fois que le revendicateur jure que l'esclave lui appartient, l'accusé ne pourra plus changer d'avis, il devra donc le lui restituer. Shalach le Rabbi Abba le Rav Yosef Bar Chama. Rabbi Abba a envoyé une halacha à Rabbi Yosef Bar Chama. Halacha govin min avadim. L'halacha est qu'un créancier peut saisir des esclaves que les orphelins ont hérités pour payer une dette de leur père. Et cela parce que les esclaves sont considérés comme des biens immobiliers, comme nous l'avons mentionné précédemment. Rav Nachman Amar, en Govin, un créancier ne peut pas saisir des esclaves que les orphelins ont hérités pour payer une dette de leur père. Et cela, même si nous considérons les esclaves comme des biens immobiliers, mais c'est seulement pour les lois qui ont été énoncées clairement par la Torah. Par exemple, concernant les moyens d'acquisition, les esclaves seront acquis avec de l'argent, le document et la prise de possession, comme pour les terrains. Aussi, un serment ne sera pas imposé pour un différend impliquant un esclave, comme pour les terrains. Et les lois de fraude dans les transactions ne s'appliquent pas pour les esclaves, comme pour les terrains. Mais en ce qui concerne la saisie pour le paiement d'une dette, les esclaves ne sont pas considérés comme les terrains. Et cela parce que le créancier ne s'appuie que sur des biens réellement immobiliers pour le paiement de sa dette, parce que ce sont des biens qui ne peuvent pas disparaître. Mais il est impossible de dire qu'il comptait sur le fait de pouvoir saisir des esclaves, étant donné qu'ils peuvent disparaître aisément. Shalach le Rabbi Abba le Rabbi Yosef Bar Chama. Rabbi Abba a envoyé un troisième enseignement à Rabbi Yosef Bar Chama. Nous savons qu'une personne ne peut pas témoigner dans une affaire qui concerne l'un des membres de sa famille proche. Alors Rabbi Abba a envoyé la halakha suivante. Halakha shlishi besheni kasher. Une personne de la troisième génération peut témoigner dans une affaire qui concerne un membre de sa famille considéré de la deuxième génération. C'est-à-dire, les frères sont considérés comme étant première génération, les cousins comme étant deuxième génération, les petits cousins comme étant troisième génération. Donc, une personne peut témoigner dans une affaire qui concerne le cousin de son père ou le fils de son cousin. Rava Amar Af Barishon. Une personne de la troisième génération peut aussi témoigner dans une affaire qui concerne un des membres de sa famille considéré de première génération. C'est-à-dire, une personne peut témoigner dans une affaire qui concerne le frère de son grand-père ou dans une affaire qui concerne le petit-fils de son frère. Mais il ne pourra pas témoigner dans une affaire qui concerne un de ses descendants directs ou un de ses ancêtres. Mar Baravashi Akshar Be'aba De'aba. Mar Baravashi a même accepté le témoignage d'une personne dans une affaire qui concerne le grand-père ou bien le petit-fils. Velet Ilcheta Kemar Baravashi, mais la halakha n'est pas comme Mar Baravashi, donc une personne ne peut pas témoigner dans une affaire qui concerne un de ses descendants directs ou un de ses ancêtres. Shalach le Rabbi Abba le Rabbi Yosef Bar Chama. Rabbi Abba a envoyé un quatrième enseignement à Rabbi Yosef Bar Chama. Haya yodea lo beedut karka. Si une personne connaissait un témoignage en faveur d'une autre personne concernant un terrain, par exemple dans une affaire qui oppose deux personnes où l'un des deux parties présente l'argument comme quoi l'autre partie a déplacé la limite de son terrain, de manière à lui voler un morceau de terre, et il y a justement une personne qui savait exactement où était la limite, Hachelonistama, avant de devenir aveugle, Venistama, puis il est devenu aveugle, Pasoul, ce témoin n'est pas valable, son témoignage ne sera donc pas accepté. Et cela, parce qu'il se peut que son témoignage ne soit pas exact, parce qu'il ne voit pas. Ou Shmuel Amar, Kacher, ce témoin est valable, son témoignage sera accepté. Et cela parce que Efshar de Mechaben Matsarnaha, il se peut qu'il arrive à déterminer l'emplacement exact de la limite d'origine en s'appuyant sur des repères se trouvant dans les champs avoisinants. Il n'y a donc pas de raison de refuser son témoignage. À Valglima, mais s'il s'agit d'un témoignage concernant un habit, l'eau, dans ce cas, son témoignage ne sera pas accepté, parce que même s'il connaît les dimensions exactes de l'habit, cela ne prouve pas qu'il appartenait à la personne en question, parce qu'il y a beaucoup d'habits qui peuvent avoir la même mesure. Rav Sheshet Amar, Afilu Glima, même si ce témoignage concerne un habit, le témoignage sera accepté. Et cela parce que Efshar de Mechaven Midat Orko ou Midat Rochbo, parce qu'il se peut qu'il arrive à donner les mesures exactes de la longueur et de la largeur, ce qui peut être une preuve suffisante que la personne en question est le propriétaire légitime de cet habit. Aval Naska, mais si ce témoignage concerne un lingot, c'est-à-dire un morceau d'argent ou d'or, l'eau, dans ce cas, son témoignage ne sera pas accepté. Parce que même si ce témoin connaît le poids exact de ce lingot, ce n'est pas une preuve que la personne en question en est le propriétaire. Verav Papa Amar, Afilu Naska, même si le témoignage concerne un lingot d'or ou d'argent, Efchar de Michaven Midat Mishkelotav, il peut arriver à donner le poids exact de ce lingot, ce qui sera une preuve suffisante que la personne en question en est le propriétaire. Mais Tivé, on a opposé à tous ces Amoraïm une braïta. En effet, la braïta enseigne Haya yodea lo be'edut, celui qui connaissait un témoignage en faveur d'une autre personne, Achelona se chatano, avant de devenir son gendre, Vena se chatano, puis il est devenu son gendre. Ainsi donc, il ne peut plus témoigner en sa faveur, comme l'Agmara l'a enseigné dans Sanhedrin Daf Kavzayin Amud Bet. Ou bien, Pikeach venit Haresh, s'il était normal, puis il est devenu sourd-muet, ou bien Piteach venit Stama, ou bien s'il était clairvoyant, puis il est devenu aveugle, ou bien Chafouille venit Shtate, ou bien s'il était normal, et il est devenu fou, Pasoul. Ce témoin n'est plus valable, son témoignage ne sera donc pas accepté. Aval haya yodea lo be'edut, mais s'il connaissait un témoignage en sa faveur, Achelona sechatano, avant de devenir son gendre, Vena sechatano, puis il est devenu son gendre, ou Metabito, et la fille de la personne en question est décédée, sans laisser d'enfant de manière à ce que ce témoin n'a plus aucun lien de famille avec lui, ou bien Piker venit Haresh, ou bien s'il était normal, puis il est devenu sourd-muet, Vechazar venit Pakeach, et il est devenu à nouveau normal, il a guéri, ou bien Piter venit Stama, s'il était clairvoyant, puis il est devenu aveugle, Vechazar venit Pateach, puis il est devenu à nouveau clairvoyant, Chafouille venit Shtate, ou bien si au moment où il a eu connaissance de ce témoignage, il était normal, puis il est devenu fou, Vechazar venit Shtape, puis il a retrouvé la raison, Kacher, ce témoin est valable, son témoignage sera accepté, Zéaklal, voici la règle générale, Kol Shetrilato Osofo Bepaslut, dans toute situation où au début, c'est-à-dire lorsque la personne prend connaissance du témoignage, ou la fin, c'est-à-dire au moment où il est appelé à témoigner, il se trouve que le témoin n'est pas valable, Pasoul, le témoin n'est pas valable, son témoignage ne sera pas accepté. Trilato Vesofo Bekashrut, mais si au début, c'est-à-dire lorsqu'il a pris connaissance du témoignage, et à la fin, c'est-à-dire au moment où il a été appelé à témoigner, il était valable, Kacher, ce témoin est valable, son témoignage sera accepté, même si pendant une période de temps, il avait perdu sa validité comme témoin, pour une raison ou une autre. En tout cas, nous voyons clairement dans cette braïta que l'aveugle ne peut pas témoigner.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kuf Kafret Amud Bet. Tchouvta de Kulhu, c'est une réfutation de l'opinion de tous ces Amoraïm qui acceptaient le témoignage de l'aveugle. En effet, Shmuel l'acceptait concernant un terrain, Rav Shechet l'acceptait aussi concernant un habit, Rav Papa l'acceptait aussi concernant un lingot d'or ou d'argent. La Gemara conclut là-dessus, Tchouvta, c'est une réfutation définitive, la halakha sera donc comme Rabbi Abba qui dit qu'en aucun cas le témoignage de l'aveugle ne sera accepté. Shalach Rabbi Abba le Rav Yosef Bar Chama. Rabbi Abba a envoyé un cinquième enseignement à Rav Yosef Bar Chama. Haomer al Tinok ben Abanim, celui qui dit quelque chose à propos de son plus petit enfant par rapport à ses autres enfants, Neeman, on le croit. De Rabbi Yochanan Amar et non Neeman, Rabbi Yochanan dit qu'on ne le croit pas. La Gemara demande, Maïka Amar, qu'a-t-il voulu dire? La Gemara répond, Amar Abaye, Harika Amar, c'est cela que Rabbi Abba a voulu dire. Haomer al-Tinok ben Abanim, celui qui dit sur le plus petit de ses enfants, par rapport à ses autres enfants, Yirash Kol Nechassai, que celui-ci hérite tous mes biens, Neeman, on le croit, c'est-à-dire son testament oral sera valable, et on accordera tous les biens au plus petit de ses enfants. Il s'agit d'un cas où c'était un mourant, et c'est pour cela que le testament oral est valable, ou bien même s'il était en bonne santé, il s'agit d'un cas où il a fait un acte d'acquisition. Que Rabbi Yochanan ben Beroka, comme l'a enseigné Rabbi Yochanan ben Beroka, que nous verrons dans la prochaine Mishnah. Ve Rabbi Yochanan Amar enoneman, alors que Rabbi Yochanan dit qu'on ne le croit pas, c'est-à-dire que son testament ne sera pas valable, que Rabbanan, comme l'opinion des Chachamim, que nous avons vu dans notre Mishnah, selon laquelle celui qui dit que tel de mes enfants héritera de tous mes biens, son testament ne sera pas valable, parce qu'il a voulu modifier les lois de l'héritage qu'a enseigné la Torah. Il pourra uniquement dire « Je fais cadeau de tous mes biens à cet enfant » comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Matkifla, Rava a objecté sur cette interprétation. « Hay ne'eman veno ne'eman » Est-ce que pour dire cela, Rabbi Abba devait dire « Il sera cru » et Rabbi Yochanan devait dire « Il ne sera pas cru » Yirash velo yirash mi ba'ele. Rabbi Abba aurait dû dire « Cet enfant héritera de tous ses biens » et Rabbi Yochanan aurait dû dire « Cet enfant n'héritera pas tous ses biens ». Il est donc impossible d'interpréter cette discussion de cette manière. Et là, Marava, c'est pour cela que Rabba a dit, Hachika Amar, c'est cela qu'ils ont voulu dire. Haomer al-Tinok ben Abanim, celui qui dit sur le plus petit de ses enfants, parmi les autres enfants, Berohu, c'est lui l'aîné. Autrement dit, les autres enfants ne sont pas les miens, par conséquent, ce sont des mamzerim. Ne'eman, on le croira, que Rabbi Yehuda, selon l'opinion de Rabbi Yehuda. De Rabbi Yochanan Amar et non Ne'eman, alors que Rabbi Yochanan dit qu'on ne le croira pas, Kirabanan, comme l'ont enseigné les Chachamim. En effet, nous avons vu dans le daf précédent une discussion entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Et les Chachamim disaient que le père n'a pas de droit de témoignage pour contredire le statut de ses enfants, alors que Rabbi Yehuda pensait que le père a le droit de témoignage, même pour contredire le statut de ses enfants. Donc, Rabbi Abba a fixé l'alakha comme Rabbi Yehuda, et Rabbi Yochanan l'a fixé comme les Chachamim. Shalach le Rabbi Abba le Rav Yosef Bar Chama. Rabbi Abba a envoyé un sixième enseignement à Rav Yosef Bar Chama. Haomer titol ishti ke'echad min abanim. Celui qui dit que ma femme reçoive une part dans l'héritage comme l'un de mes enfants. Il s'agit d'un cas où il a précisé qu'il lui faisait ce cadeau en plus de l'aktuva qu'il lui doit, ou bien dans un cas où elle a accepté ce cadeau en échange de l'aktuva qu'il lui doit. Nous précisons aussi que soit cette personne était mourante, son testament oral était suffisant, ou bien même si elle était en bonne santé, il s'agit d'un cas où il a fait un acte d'acquisition. Or là, la chaye, notelet ke'echad min abanim, elle recevra une part comme l'un de ses enfants. Amar Rava, Rava a précisé là-dessus, ou ben chassim shelachshav. Ce cadeau ne concerne que les biens qu'il possède actuellement, et non pas ce qu'il recevra par la suite. Et cela même selon Rabbi Meir, qui dit qu'une personne peut donner ou vendre des objets qu'il ne possède pas encore. Mais là, dans notre cas, où il n'a pas précisé qu'il voulait faire cadeau des biens qu'il acquérera par la suite, ce cadeau ne concerne que les biens qu'il possède actuellement. Ou bebanim habayim le'achar mikan. Et le partage sera effectué en tenant compte des enfants qui naîtront par la suite. Autrement dit, le partage sera effectué en fonction du nombre d'enfants qu'il y aura après la mort de cette personne. Donc, en conclusion, les biens que le mari possédait au moment où il a fait ce cadeau à sa femme, seront partagés après sa mort entre sa femme et les autres enfants qu'il a laissés après sa mort, et cela indifféremment s'il y en a plus ou moins, et les autres biens que le père a acquis après qu'il a fait ce cadeau seront partagés équitablement entre les enfants, mais la femme ne recevra aucune part dans ses biens. Shalach le Rabbi Abba le Rav Yosef Bar Chama. Rabbi Abba a envoyé un septième enseignement à Rav Yosef Bar Chama. Hamotzi shtar chov al chavero, celui qui présente une reconnaissance de dette à son prochain, mal ve'amar lo nifrati klum, le créancier dit que je n'ai pas du tout été remboursé, velo ve'amar parati merza, et le débiteur dit j'ai déjà payé la moitié de cette dette, ve'aidim meidim shepara kulo, et des témoins témoignent que le débiteur a payé la totalité de cette dette. Hareze nishba, le débiteur jurera qu'il a payé la moitié de la dette. Et le créancier encaissera la moitié restante de la dette en saisissant des biens libres, c'est-à-dire qui n'ont pas été vendus. Aval mimeshubadin, mais des biens assujettis, c'est-à-dire qui ont été vendus à d'autres personnes, l'eau. Le créancier ne pourra pas les saisir, d'amré, parce que les acheteurs peuvent dire, anan aedim samchinan, nous croyons les témoins qui disent que le débiteur a payé la totalité de cette dette. Il se peut donc que le créancier et le débiteur se soient mis d'accord pour faire une combine, de déclarer que la moitié de la dette n'a pas été payée pour pouvoir saisir les biens de ses acheteurs pour les partager ensuite. C'est pour cela donc qu'ils n'ont pas l'obligation d'accepter l'aveu du débiteur. En tout cas, nous avons dit que même si les témoins témoignent que le débiteur a payé la totalité de la dette, puisque le débiteur avoue n'avoir payé que la moitié, il devra jurer qu'il a payé le reste. Et cela, bien que nous avons une braïta qui est rapportée dans Bava Metzia d'Avdalet Amudbet, qui parle d'un cas similaire. Et là-bas, il est enseigné une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Elazar. Il s'agit d'un cas d'un créancier qui présente une reconnaissance de dette dans laquelle il est écrit que le débiteur lui doit des pièces d'un sela ou des pièces d'un dinar sans préciser combien. Le créancier en réclame 5 et le débiteur reconnaît en devoir 3. Nous noterons que le minimum d'un pluriel est 2, c'est-à-dire que en s'appuyant uniquement sur la reconnaissance de dette, le débiteur aurait dû payer uniquement 2 pièces d'un sela ou 2 pièces d'un dinar. Alors la question se pose, est-ce que parce que le débiteur reconnaît devoir une pièce d'argent supplémentaire, doit-il jurer qu'il ne doit pas plus, comme celui qui reconnaît partiellement une dette? C'est cela d'ailleurs l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Ou bien nous dirons que puisque rien ne le forçait à avouer, reconnaître plus que ce que nous pouvons comprendre de la reconnaissance de dette. Nous comparerons ce cas à celui qui restitue un objet trouvé, où il ne devra pas jurer, même si le propriétaire réclame un objet supplémentaire qu'il a aussi perdu. Parce que tout d'abord, nous devons le remercier d'avoir restitué cet objet. Il n'y a donc pas lieu de lui imposer un serment. Donc justement, c'est cela l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit que puisque le débiteur n'avait pas besoin d'avouer qu'il devait une pièce d'argent supplémentaire, il sera dispensé de jurer qu'il ne doit pas plus. En l'Agmara précise que dans notre cas, d'une personne qui reconnaît devoir la moitié de sa dette, puis des témoins sont venus témoigner qu'il a payé la totalité de la dette, il devra quand même jurer qu'il ne doit pas plus. Va filou le Rabbi Akiva, même selon l'opinion de Rabbi Akiva de Amar Meshiva Vedaave, qui dit que dans un cas similaire, nous le comparons à la personne qui restitue un objet trouvé. Par conséquent, il est dispensé de jurer. Hanemile, quand disons-nous cela, que cette personne sera dispensée de jurer parce qu'elle est considérée comme la personne qui restitue un objet trouvé? Hecha de le Kaedim, c'est uniquement dans le cas où il n'y a pas de témoin. Donc il n'avait aucune raison d'avouer qu'il devait une somme d'argent supplémentaire. Aval hecha de Kaedim, mais dans un cas où il y a des témoins qui n'ont pas encore témoigné, irtute irtat, il se peut que le débiteur avait peur de renier cette dette, de peur que les témoins témoignent contre lui. Et c'est pour cela qu'il s'est dépêché d'avouer qu'il doit encore la moitié de la somme pour ne pas passer pour menteur. C'est pour cela donc qu'il devra jurer qu'il ne doit pas plus, comme toute personne qui avoue partiellement une dette. Matkifla, Mar Baravashi, Mar le fils de Ravashi a objecté là-dessus. Adraba, au contraire, afilou le Rabbi Shimon ben Elazar, même selon l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, d'Amar Modé Miktatatanave, qui dit que dans le cas où le débiteur avoue devoir une pièce d'argent supplémentaire, il est considéré comme une personne qui avoue une partie de la somme réclamée par le créancier. Par conséquent, il doit jurer qu'il ne doit pas plus. Hanemile, quand ces choses sont dites, lorsqu'il n'y a pas de témoins qui soutiennent l'opinion du débiteur, qui disent donc qu'il ne doit que 3 pièces par exemple, aval mais dans le cas où il y a des témoins qui soutiennent l'argument du débiteur, par exemple dans notre cas où les témoins témoignent qu'il ne doit rien du tout, il est évident que dans le cas où le débiteur reconnaît quand même devoir une partie de cette dette, il devrait être considéré comme la personne qui restitue un objet trouvé. Il devrait être donc dispensé de jurer. La Gemara ne répond rien à cette question, en fait, parce qu'elle n'en tient pas compte. En effet, comme nous l'avons dit, il s'agit ici d'un cas où les témoins ont témoigné uniquement après que le débiteur a présenté l'argument qu'il devait encore la moitié de la dette. Nous estimons donc qu'il a avoué devoir une partie de la dette, parce qu'il ne savait pas ce que les témoins allaient dire. Il avait peur d'être considéré comme un menteur en reniant entièrement cette dette. C'est pour cela donc qu'il sera considéré comme la personne qui avoue devoir une partie de la dette réclamée par le créancier. Il devra donc jurer qu'il ne doit pas plus. Darash Marzutra Mishme de Rav Shimi Barashi. Marzutra a enseigné publiquement la chose suivante au nom de Rav Shimi Barashi. Hilcheta bechol haneshma teta kedeshalach le Rabbi Abba le Rav Yosef Barchama. La halakha dans tous les 7 enseignements que nous avons vus plus haut est comme ce qu'a envoyé Rabbi Abba à Rav Yosef Barchama. Donc la halakha est comme Rabbi Abba. Amarle, Ravina le Ravashi. Ravina a posé la question suivante à Ravashi de Rav Nachman Mai. Que fait-on avec l'opinion de Rav Nachman? C'est-à-dire le deuxième enseignement envoyé par Rabbi Abba, Rabbi Yosef Bar Chama, était que le créancier peut saisir des esclaves que les orphelins ont hérités pour le remboursement d'une dette que leur père lui devait. Nous avons vu que Rav Nachman n'était pas d'accord avec cela. Selon lui, les esclaves ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. Par conséquent, le créancier ne peut pas les saisir. Or, nous savons que partout la halakha est comme Rav Nachman. Alors, la question se pose, comment pouvons-nous fixer la halakha comme Rabbi Abba, alors que nous savons que la halakha est comme Rav Nachman? À Marlé, Rav Ashi lui a répondu, Engovin matnala. Nous avons appris cet enseignement de Rabbi Abba différemment. En effet, nous avons appris que Rabbi Abba avait envoyé que le créancier ne peut pas saisir les esclaves appartenant à des orphelins. Vechen amar Rav Nachman, et la suite de cet enseignement est, et ainsi a dit Rav Nachman donc, que le créancier ne peut pas saisir des esclaves. Donc finalement, il n'y a pas de contradiction entre les halakhot, puisque la halakha est soit selon Rav Nachman, soit selon Rabbi Abba, que le créancier ne peut pas saisir d'esclaves. Alors la question se pose, ve'ela hilcheta le'afukemai, si c'est ainsi, lorsque nous disons que la halakha est comme Rabbi Abba, qu'est-ce que cela vient exclure?
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.